Et si aujourd'hui on s'engloutissait carrément dans, je ne sais pas, dans un flot de nostalgie et puis qu'on essaye de déclencher devant nous comme ça des images, je dirais même des émotions extrêmement puissantes. Savez-vous de quoi je parle? Eh bien, je pense qu'il y a certaines substances, il y a certaines choses qui volent au vent, qui flottent dans l'espace, dans la pièce où vous vous trouvez en ce moment. Et ça s'appelle tout bêtement un parfum, une odeur. Et aujourd'hui, pour la seconde fois, pour refaire un voyage à travers le monde des parfums, j'ai invité Jean Adorne, que vous connaissez, que vous avez peut-être déjà rencontré et qui a peut-être démontré une fois, deux fois et souvent que le nez, un nez, c'était un métier, un art et surtout beaucoup de sens, beaucoup de sentiments même, quelque chose qui a la qualité d'un parfum, d'un grand parfum. Quand on parle de cet effet immédiat, quand on parle de parfum, je sais que... D'abord, on ne peut pas en parler, c'est-à-dire qu'on va passer une heure ensemble sans rien dire, et qu'on va au contraire essayer, par la pensée, de retrouver en traduction tout ce qui évoque normalement... ce qui évoque des images, bien sûr, mais ce qui est évoqué par le parfum lui-même. Alors, Jean Adorne, vous êtes là pour nous apprendre quelque chose aussi, c'est-à-dire essayer de reprendre peut-être... on pourrait commencer par les catégories fondamentales. Je sais que vous êtes un expert et qu'en fait, j'ai appris en vous rencontrant ces derniers temps que la menthe, exactement la menthe poivrée, le côté floral, on pense aux roses, on a déjà évoqué la dernière fois l'œillet, la violette, et puis le côté éthéré, c'est-à-dire alors ce qui ressemblerait plutôt à, je sais pas, à des fruits, non? Est-ce que ça peut être des fruits? Et puis le musc, ça on en a parlé aussi, le côté musqué. Tout ce qui est résineux, là je pense au camphre, ou alors carrément ce qu'on déteste, c'est-à-dire les œufs pourris, enfin des odeurs qui ne sont pas très 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 agréables. Et puis il y a la toute dernière, ce sont les odeurs aigres, et là je repense au vinaigre et à je ne sais pas, la mer de vinaigre que ma grand-mère mettait dans son grand pot de terre.
Oui, mais le vinaigre a été au XVIIIe siècle, et jusqu'au XIXe d'ailleurs, une façon d'utiliser les odeurs. À côté de l'eau de Cologne, qui a donc deux siècles, et plus de deux siècles, il existait des décoctions odorantes dans le vinaigre, qui avaient probablement un effet tonique. Et un des plus célèbres de ces vinaigres était le vinaigre des quatre voleurs.
Comment s'appelle-t-il?
Des quatre voleurs.
Ah, des quatre voleurs, oui.
Et en fait, c'était une décoction de diverses plantes aromatiques dans du vinaigre. Et l'odeur finale conservait l'odeur aigre du vinaigre. Et il faut ajouter aussi à propos de ces vinaigres de toilette, donc qui ont fait florès pendant près d'un siècle et demi, que l'un d'entre eux est à l'origine de la fondation de la maison Guerlain. La première préparation de Pierre-François-Pascal Guerlain, qui était un pharmacien à la base, sa première préparation a été un vinaigre de toilette, qui a duré d'ailleurs jusque sous le Second Empire, et qui était d'ailleurs fort prisé par la cour.
Restons à l'époque de ce petit Napoléon, restons dans le cadre Guerlain. Est-ce que tout cela se passe dans un Paris qui vient acheter du vinaigre parfumé dans une petite boutique qu'occupe Guerlain?
Tout était fait en boutique, à la différence de l'heure actuelle, tout est fait en boutique. Et ce qui existait dans cette première moitié du XIXe siècle et jusqu'au Second Empire, Lubin, Houbigant, Guerlain, tous avaient pignon sur rue, sans compter ceux qui ont d'ailleurs disparu. Ils avaient pignon sur rue, et chose curieuse toujours, et encore comme maintenant, dans cet arrondissement parisien de luxe qu'est le 8e, compris entre la rue Royale, le faubourg Saint-Honoré, et c'est en principe et l'avenue de l'Opéra, c'est dans ce quartier-là que se situaient toutes ces boutiques.
Est-ce que vous pourriez m'en décrire une? C'est-à-dire, moi, j'imagine les pharmacies...
Ça ressemblait un peu à la pharmacie, à cette différence que, disons, les peut-être moins encombrées qu'elles sont actuellement. Vous aviez, par exemple, le long des murs, des présentations, à la fois de bocaux de décoctions pharmaceutiques, des extraits de toutes sortes de plantes, que, comme enfin dans ces fameux pots dont les collections d'ailleurs font florès. Et à côté de ça, il y avait des pots de cosmétiques, des pots de cosmétiques assez curieux. On avait hérité depuis le 18e siècle de toutes sortes de recettes qui s'appelaient l'eau suprême, l'eau vigoureuse, la crème pour effacer les rides, enfin il y avait toutes sortes de choses. Tout existait déjà, avec cette différence peut-être qu'elles étaient basées sur beaucoup de persuasion. Maintenant, on a peut-être acquis une certaine technique ou une certaine recherche. La recherche a permis d'acquérir des éléments fondamentaux de réparation des outrages du temps. À l'époque, il fallait y croire. Vous savez, il y a même eu des époques encore pires. Au XVIe siècle, on pouvait voir, par exemple, pour blanchir le thym, des extraits de pigeons écrasés, cuits pendant je ne sais combien de jours et de semaines, et avec de l'urine de souris, enfin toutes sortes d'ingrédients tout à fait particuliers. Et il paraît que ça avait le mérite de blanchir le thym.
On revient dans le pot de départ. Nous ne sommes pas arrivés encore au vinaigre.
Et donc avec ces ingrédients, on a cherché tout autour qu'est-ce qui pouvait rendre peut-être la peau plus tonique. Et c'est là qu'est intervenu donc les premiers vinaigres, notamment le vinaigre des quatre voleurs dont je parlais tout à l'heure.
Pourquoi s'appelait-il des quatre voleurs?
Je ne me souviens plus exactement de la légende. Je ne me souviens plus parce qu'il n'est absolument pas composé d'ingrédients chers ni coûteux qui pourraient supposer qu'il fallait le voler. Je ne sais plus du tout. Là où me prenez.
C'est joli comme nom.
Par contre, dans cette série de vinaigres, il y a eu un célèbre vinaigrier de la fin du XVIIIe siècle qui était présent sous la Révolution, qui était Maille.
Maille était
vinaigrier. Non, je ne ferai pas de publicité pour des choses. Mais Maille a laissé son nom, encore de nos jours, sur les étagères des épiceries fines. Et ce Maille a été lui-même concocteur d'un certain vinaigre, également, qui était donc basé sur des décoctions. Alors, toutes ces décoctions étaient faites un petit peu pour pallier pallier l'influence de l'eau de Cologne et essayer peut-être d'en faire un peu de concurrence, d'y faire un peu de concurrence, c'était de faire des décoctions de citron, d'orange, de mandarine, mais aussi souvenir de l'eau de la reine de Hongrie, d'y incorporer du romarin, un peu de lavande, enfin tout ce qui pouvait à l'époque passer pour quelque chose de tonique.
Et d'agréable, bien sûr. Vous savez que vous écoutez une radio où il y a beaucoup d'eau, même si on a parlé d'énergie, même si on a parlé de tonique, même si j'ai parlé de nostalgie tout au début. Non, vous êtes bien sur Radio Lac. Et j'aimerais parler d'eau justement, mais j'aimerais... Vous avez évoqué l'eau de Cologne tout à l'heure. Or l'eau de Cologne, bon, c'est un des noms ou des mots parfumés comme cela qui nous fait rêver. Depuis l'enfance, parce que bon, il y a des numéros, 4711, et je ne sais pas, il y a des évocations qui font à la fois ancien. Vous m'avez parlé d'un vinaigre. Bon, c'est vrai que lorsqu'on met son nez sur un vinaigre aromatisé aujourd'hui, on éprouve un certain plaisir, une certaine joie olfactive. Mais quand on parle d'eau de Cologne, il y a quelque chose qui fait grands-parents en même temps, qui fait début du siècle. Il y a l'évocation de pays chauds, mais aussi justement, est-ce que c'est vraiment de Cologne?
À l'origine, pas. Ça peut paraître curieux. L'origine de l'eau de Cologne est d'ailleurs fortement controversée. Il y a diverses versions d'une histoire qui a commencé en Italie, qui a commencé sous le merveilleux ciel de Florence, et vous connaissez sans doute le couvent de Santa Maria Novella. Et dans ce couvent, les religieuses avaient l'habitude, pour des besoins pharmaceutiques ou médicinaux, de faire macérer des fruits du sud de l'Italie, mandarines, citrons, bergamotes, de les faire macérer dans un liquide que l'on venait de découvrir, qui était l'esprit de vin. En fait, l'esprit de vin, c'est donc l'alcool. On était encore à cette idée moyenâgeuse que ce qui distillait du vin, qui était en fait donc l'alcool, était une espèce d'esprit invisible et impalpable qui s'en échappait et qui pouvait avoir des propriétés remarquables, d'où son nom, l'esprit de vin. Donc ces religieuses faisaient ces décoctions là-dedans, et passant par là, un certain Jean-Paul Féminis, qui était pharmacien, sur la place de la cathédrale de Cologne, il était descendu faire un voyage en Italie, et passant par là, il a remarqué cette recette, et bien entendu, il a bien regardé comment ça se faisait.
Nous sommes au XVIIe siècle.
Nous sommes au XVIIIe siècle. Au début du XVIIIe. Oui, c'est tout au début.
J'essaie de voir le costume, j'essaie de voir
tout
la
au
place
début du XVIIIe.
Avec Santa Maria Novella et
cet
allemand.
Et il a donc rapporté cette recette. Il est rentré de son voyage et puis il s'est dit, après tout, on va essayer d'un peu de perfectionner la chose. Et il s'est lancé dans une confection quasi presque semi-industrielle pour l'époque. De ces espèces de préparations, il y a ajouté des ingrédients de son choix. Donc, on ne préparait pas du tout comme on pourrait la préparer maintenant. C'était, on mettait tout dans de l'alcool, on attendait un certain temps, et au bout d'un moment, on filtrait, ça avait pris la couleur un peu des zestes de mandarine ou d'orange, et après filtration, on le conditionnait. Et très vite, cette eau de Cologne a eu un énorme succès, elle était vendue partout, elle était vendue notamment sur le Pont Neuf à Paris, où il y avait un certain sieur Onfroy, qui vendait ça à 3 sols le flacon, et c'était, il faut bien dire, curatif. C'était à la fois pour se donner un petit peu de fraîcheur après une éventuelle toilette, mais c'était également ingéré avec toutes sortes de... Et paraît-il qu'elle avait des propriétés qui couvraient des ulcères, ça allait des ulcères à l'estomac jusqu'aux maux de tête, enfin tout y passait. Et je crois qu'il faut bien dire une chose, c'est que c'était un remède, oui, mais c'était fait à base uniquement de plantes. Ça, il faut s'en souvenir.
Donc, on pouvait l'ingurgiter comme un alcool.
Et jusqu'à Napoléon, ça s'est extrêmement développé. Et Napoléon Ier, Bonaparte, disons plutôt, il était encore Bonaparte à l'époque, était très amateur de l'eau de Cologne. Il en a consommé, paraît-il, il consommait facilement 5 litres par mois.
Mais ça osait, mais en même temps, il en buvait.
Oui, il avait découvert une chose qui était le canard, Napoléon. Et bon, ceci dit, le canard, donc un morceau de sucre dans un peu d'eau de Cologne. Mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire à Cologne, parce que Jean-Paul Féminis est donc à Cologne. Belle cathédrale, enfin...
Je vois l'image, un peu noire, mais très belle.
Et là, son affaire s'est développée, et quand il a eu besoin d'un assistant, il l'a pris en la personne d'un certain Jean-Marie Farina, qui était son neveu. Et Jean-Marie Farina, encore plus grand stratège commercial que son oncle, a fait de l'eau de Cologne quelque chose qui couvrait toutes les cours d'Europe. Et à tel point même que le succès étant tel que, actuellement, dans les sources historiques que l'on peut rencontrer, on dénombre une bonne centaine de Jean-Marie Farina. Lequel est le vrai? Lequel est le vrai Jean-Marie? Parce que les gens sont allés jusqu'à trouver, comme prête-nom, des jeunes gens qui, à leur naissance, s'appelaient donc Farina, et qu'à leur naissance, on leur avait donné le prénom de Jean-Marie, sait-on jamais. En fait, le vrai, c'était le neveu de Jean-Marie, le neveu de Jean-Paul Féminis. Mais il s'est trouvé que très vite, D'autres officines se sont fondées juste en face de la... De la
on est toujours sur la place de la cathédrale.
Sur la place de la cathédrale de Cologne. Si bien que d'aucuns étaient obligés de mettre « c'est moi le vrai, pas celui d'en face ». Et c'était extrêmement difficile de savoir dans quelle eau on nageait, si je puis dire. Mais le vrai... donc le neveu, enfin, d'aucuns vous diront, il y a une firme célèbre de Cologne allemande, la 4711, qui dit, moi j'ai eu la formule originale.
Et pourquoi 4711 est-il... Est-ce que ça se sait
Non, je ne sais pas. 4711, je ne sais pas. Est-ce que c'est un numéro? Est-ce que c'est un numéro de situation dans la ville? Je ne sais pas du tout. Et là, je saurais...
Est-ce qu'on mettait l'eau de Cologne à l'époque en flacon? Est-ce qu'elle était servie dans de la céramique? Est-ce qu'on l'envoyait...
Le problème, c'était un peu comme la parfumerie à la tireuse qu'on a connue jusque dans les années 60, dans les ventes. Après la vente de blanc, il y avait la vente de parfum. Ces ventes de parfum se faisaient à la tireuse. C'est-à-dire que vous ameniez votre bocal, votre flacon, en porcelaine, en terre, en verre, enfin ce que vous trouviez. Et là, vous achetiez une mesure du parfum qui était de l'eau de Cologne ou aux toilettes, qui était en grands bocaux avec un petit robinet en bas. On remplissait, on allait peser et ça coûtait tant. C'était fait de la même manière, parce qu'on n'avait pas encore inventé le conditionnement, le préconditionnement en quelque sorte. Il fallait amener son bocal, son petit
son flacon.
Alors il pouvait être très précieux, parce que ça, le 18e a été une époque fabuleuse pour la présentation de flacons de porcelaine, par exemple.
Le parfum lui-même, enfin ce n'est pas encore du parfum, cette eau... elle voyage en tonneau ou... Parce que j'aimerais la voir voyager à travers l'Europe. Là. Vous êtes partie de Cologne.
Elle voyageait déjà dans ces merveilleuses dames jeunes, qui étaient en fait des bouteilles de 5 ou 10 litres entourées de paille ou comme des paniers, vous savez.
Avec d'osier.
De l'osier, oui, autour. C'était uniquement fait pour les protéger.
Et ça voyageait comme ça sur des
charrettes. Ça voyageait comme ça sur des charrettes. Et c'était... à partir de la fabrication donc faite dans les environs de Cologne ou à Cologne même ou dans les arrière-boutiques des fabricants, c'était envoyé à travers toute l'Europe lentement mais sûrement.
C'est tout de même intriguant de penser qu'en fait les produits se trouvaient plutôt en Sicile ou à Florence dont on parlait tout à l'heure et que ce soit là, dans cette partie assez nordique de l'Europe, que l'on développe une sorte de monopole quand même.
C'était un monopole, exactement, c'était un monopole. Comme l'avait été, bien des années auparavant, celui de l'eau de la reine de Hongrie, qui en fait était faite à Montpellier.
J'ai l'impression qu'on reste dans ces eaux-là et qu'on reste aussi dans ces odeurs qui étaient florales, éthérées, enfin fruitées en tout cas. Et vous me parliez là juste avant le petit interlude musical de l'eau de Hongrie à propos de Montpellier. Ben Montpellier, ça me paraît une ville déjà beaucoup plus judicieuse. Mais pourquoi de Hongrie? C'était de nouveau une question de coût. Est-ce qu'il y avait des monopoles qui intervenaient au niveau des cours d'Europe?
Non, je ne crois pas. Je crois surtout que c'est parce que l'eau de la Reine de Hongrie est une eau qui a été donc inventée à Montpellier, qui, soit dit en passant, est une magnifique et célèbre faculté de médecine. Et cette faculté de médecine avait créé avait généré des études sur justement des liquides ou crèmes ou tout ce qui pouvait amener un rajeunissement en tout genre. Et parmi eux, une fameuse infusion, une fameuse teinture faite essentiellement à base de romarin. Et comme vous le savez, le romarin est une plante qui couvre pratiquement tout le bassin méditerranéen. D'ailleurs, l'industrie de la parfumerie actuelle retire ses principales ressources de romarin qui vient la plus grande partie du Tunisie. Donc, et ce romarin dont on connaît bien l'odeur, et puisque maintenant on l'utilise même en cuisine, en dehors de, et que nous qualifions, nous, parfumeurs, comme étant agreste, c'est-à-dire champêtre et à la fois peut-être un petit peu médicinal, un petit peu ça tourne là autour. Donc on avait fait une solution, donc toujours une macération de ce romarin, essentiellement, avec un tout petit peu de thym et encore un peu d'aspic, c'est-à-dire lavande camphrée d'Espagne. On en avait fait une lotion, et cette lotion avait été proposée à l'Europe entière, et notamment à une fameuse reine de Hongrie, laquelle reine de Hongrie l'utilisa longtemps pour ses soins de visage, et elle redevint à 70 ans si jeune, ça lui avait probablement tellement tendu la peau, une sorte de première façon de se refaire le visage avant la chirurgie esthétique, qu'elle avait réussi à séduire un jeune homme de 20 ans, de 50 ans son cadet.
Dites-moi, on peut porter un titre d'aude la reine de Hongrie après cela.
Et cette reine de Hongrie avait donc probablement que cette eau voyageait à travers l'Italie, à travers le Tyrol, et probablement avait été arrivée à la cour des rois de Hongrie à cette époque, c'est-à-dire à Budapest.
Ce que l'on remarque en fait, c'est que le parfum suit tout de même l'histoire de l'alcool.
Ah ben c'est sûr.
Est-ce qu'on peut remonter plus avant? Est-ce qu'au Moyen-Âge, on a déjà des preuves de lotions ou de choses qui ressembleraient?
Oui.
Parce qu'il y a eu l'onguent avant.
Oui, il y a eu l'onguent. Il y a eu d'ailleurs déjà du temps les premiers qui ont fait des lotions. À part les Indiens, les gens de l'Inde déjà et de la Perse, mais surtout les Égyptiens. Les Égyptiens avaient, on ne sait pas, peut-être connaissaient-ils quelque chose comme l'alcool, mais ce n'est pas certain. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils connaissaient la distillation et qu'ils faisaient macérer, non pas ni dans l'alcool ni dans le vinaigre, ils faisaient macérer les produits odorants qu'ils avaient sous la main, c'est-à-dire tous les produits qui venaient de cette fameuse corne d'Afrique, en l'occurrence le pays des Somalis. Et là, ils prenaient tous ces ingrédients qu'ils utilisaient habituellement pour l'embaumement, ils les faisaient macérer dans des crèmes, dans des onguents, dans des pommades, c'était à l'époque. Et le Moyen-Âge a continué cette tradition, encore que.
Une tradition.
Que. Le Moyen-Âge a été un âge où le parfum a vu sa traversée du désert. Il ne faut pas oublier qu'un célèbre cardinal, lors d'un concile, avait traité le parfum d'artifice du diable.
Mmh. Donc c'était le côté frivole qui interdisait le parfum dans cette époque quand même ascétique et assez fortement religieuse. Donc c'est cet aspect-là certainement qui interdisait le parfum. Mais là, vous évoquiez l'Antiquité. Je me voyais très bien dans une de ces fêtes égyptiennes avec ces cônes de parfum posés sur la tête et qui fondaient doucement. C'est une impression assez curieuse. D'ailleurs, j'ai toujours un petit rien de démangeaison dans le dos en pensant à ces femmes superbes qui on les voit d'ailleurs dans les tombes hein, avec ces cônes à parfum.
Il y a de nombreuses illustrations, énormément d'illustrations, notamment à Edfou et puis dans d'autres temples grecs, et notamment au musée du Caire, il y a des célèbres bas-reliefs, des morceaux de bas-reliefs qui sont reproduits dans tous les livres sur l'art égyptien, où l'on voit précisément ces espèces de bougies quasi allumées sur la tête comme ça. Si je me demande l'effet que ça faisait, la chevelure devait poissée.
Ah oui, elle devait effectivement être assez crémeuse, voire poissée. Mais on les enduisait toujours. Alors bon, ça c'est Longan. On revient pour quelques instants, on retraverse tout le Moyen-Âge, on revient à cette eau. J'aimerais que vous m'évoquiez en fait le premier parfum qui a porté ce nom. Parce qu'au fond, on a parlé jusqu'à maintenant d'eau de toilette, de
oui,
vinaigre.
Oui, le premier c'est réellement l'eau de la reine de Hongrie.
Qui est ça, on peut déjà l'appeler parfum
Oui, certainement. Parfum dans le sens où qu'il l'a gardé pendant en tout cas 3 siècles avant de devenir différent par l'apport qu'ont pu donner les synthèses chimiques.
Mais par rapport
au 4 siècles.
Oui, par rapport à cela, quand vous dites eau de toilette ou que vous dites parfum, c'est uniquement une question d'une façon de dissoudre une matière dans une autre matière.
Oui, c'est, distinguons peut-être, une eau de toilette est aussi un parfum, mais il a une appellation. Il faut distinguer, si vous voulez, dans cette présentation, l'extrait, qui est à la fois, si vous voulez, ce qu'on peut appeler le parfum, mais le parfum, c'est un nom beaucoup plus générique, qui comprend tout ce qui est odorant, que ça aille de l'eau de toilette, de l'eau de Cologne, tout ça, ça fait partie du grand groupe des parfums. Mais il y a des subdivisions qui sont l'extrait, plus tout ce qu'on a trouvé, esprit de parfum, etc., jusqu'à l'eau de toilette ou l'eau de Cologne.
Avant notre prochaine demi-heure, j'aimerais juste reprendre quelques termes. Enfin, on a évoqué un peu toute l'Europe, là. Nous avons cueilli du romarin, quelques herbes. Il y a des notes de base aussi dans les parfums. On a ce qui est au milieu, ça, vous m'en avez parlé il y a très peu de temps. Je sais qu'on peut placer, par exemple, les fleurs, le jasmin, la rose, le muguet. Mais j'aimerais qu'on revienne à l'idée de ce qui est vraiment la note de base d'un parfum. Quelque chose qui me paraît immédiatement plus lourd, déjà, dans la connotation. Quelque chose qui va le faire durer aussi. Je pense, bien sûr, j'en porte volontiers au vétiver, au santal, au cèdre, à la vanille, à l'ambre... la civette, le musc qu'on a déjà évoqué lors de notre dernière rencontre. Et ce sont des... Curieusement, les bases font rêver d'une autre façon. Il y a quelque chose de beaucoup plus exotique dans la base. Est-ce qu'on pourrait faire un petit voyage à coup de 5 minutes tout à l'heure à
si
travers les bases et les...
Si vous voulez.
Simplement, on resituera peut-être le milieu et puis la base.
On va commencer par le vétiver, qui lui est un voyage à lui tout seul.
C'est un voyage à lui tout seul et j'avoue que chaque fois que je voyage, je retrouve un coin de vétiver dans le monde.
Et peu connu.
Il fait 32 degrés. Le soleil est déjà très haut dans l'espace et vous venez de visiter un des endroits les plus curieux du monde. Vous êtes à San Agustín, là-bas en Colombie, et vous venez d'observer une suite incroyable de tumuli avec à l'entrée des monstres de pierre, avec de longs crocs comme des jaguars, avec des yeux un peu exorbités, et puis cette attitude féroce que l'on rencontre uniquement dans cet art précolombien. Oui, cette zone est unique. Vous avez passé il y a quelques heures à Tierra Adentro, vous avez pénétré dans ces tombes incroyables à 20-30 mètres sous terre, dans la roche, avec de la peinture rouge, de la peinture blanche, toujours ces mêmes monstres gravés sur des colonnes, et là vous les retrouvez à l'entrée de ces tombes. Et puis vous montez, vous arrivez à Lava Patas, où là vous voyez l'eau, la rivière qui prend des formes étranges, qui suit simplement des gravures, parce qu'elle va se détourner pour devenir serpent, elle va se détourner pour devenir un autre animal, un jaguar, un caïman. Et puis il y a des chutes les unes derrière les autres, et puis tout à coup vous vous dites, mais il y a quelque chose de curieux depuis quelques minutes, il y a un parfum, il y a une odeur. Vous montez jusqu'au dernier site, vous êtes sur une colline, il y a un arbre énorme, tout ce qui reste d'un coin de jungle, une autre statue, ces statues étranges, elle tient un énorme bâton fiché en terre, elle fait 2 mètres de haut, et il y a une herbe curieuse qui est un peu velue, qui ressemble à un peu à notre foin, mais avec les feuilles un peu plus larges, et puis il y a cette odeur. Encore cette odeur vraiment tenace. Vous arrivez au dernier site, vous découvrez la dernière tombe que l'on vient d'ouvrir. Ces statues ne sont plus de simples pierres, elles sont en rouge, en jaune, en bleu. Elles sont encore fraîches de couleur. Il y a plus de 1000 ans qu'elles sont là. Et il y a encore cette odeur, ce parfum, le vétiver. Le vétiver, pour moi, c'est un peu San Agustín, mais je pourrais vous citer 10-15 autres endroits du monde où j'ai écrasé du pied cette herbe étrange. Vous disiez, Jean Adorn, que c'est une herbe qu'on connaît peu, c'est vrai?
C'est-à-dire on connaît peu. La plupart des gens qui parlent de vétiver ignorent que c'est justement une espèce d'herbe qui, moi je dirais, ça ressemble un peu à du chien dedans. C'est un petit peu comme ça. Et on connaît peu parce que personne probablement n'a jamais essayé de vous l'expliquer. Et en fait, c'est une plante qui a émigré, qui a fait tout un voyage. À l'origine, elle était, comme beaucoup d'autres, uniquement basée, elle était sauvage, dans toutes les régions de l'Indonésie, en tout cas dans tout l'océan Indien. Et elle a fait l'objet de très grandes cultures, la principale île qui l'a cultivée était Java. D'ailleurs, le vétiver, une des qualités du vétiver était le vétiver Java. Soit dit en passant, ce n'est pas du tout l'herbe que l'on utilise, mais ce sont ses racines, des espèces de racines qui sont en forme de cheveux. Et à propos, comment qualifieriez-vous l'odeur du vétiver?
Ah, eh bien, moi, je vais répondre...
C'est pas un piège.
Non, pas du tout. Je vais répondre en bon suisse. Je porte souvent vétiver et celui que je porte me fait incontestablement penser à un souvenir d'enfance. C'était des aromates que l'on avait sur nos tables et qui étaient fournis par magie, tout bêtement. Donc, il y a un côté extrêmement... je dirais, c'est novice aussi. Enfin, des choses assez curieuses. Ce sont des noms comme juste. Ça. Parce qu'il y a ce côté herbeux et qui donne l'impression aromatique proche... je dirais pas d'épices, mais il y a quelque chose qu'on a envie d'utiliser en cuisine ou en condiment, en tout cas.
C'est très juste. Enfin, à mon sens, c'est très juste. En tant que parfumeur, moi, je trouve que j'ai toujours trouvé que le vétiver sentait un peu la soupe de légumes et un peu la soupe de cerfeuil. Vous savez, moi, j'avais une grand-mère qui était genevoise et elle faisait une soupe avec du cerfeuil qu'elle appelait d'ailleurs, je ne sais pas si on l'appelle toujours comme ça, la soupe aux herbettes. Il savait un peu cette odeur. Mais revenons à nos moutons, donc à ces fameuses racines.
C'est important quand on doit fixer un souvenir de parfum. Moi, j'ai fait ma tartine de Cénovis, j'ai mis 2 gouttes de magie dans votre soupe de cerfeuil. Mais au fond, c'est ça quand même le souvenir pour un parfumeur. C'est important d'avoir une fixation.
Ah oui, c'est extrêmement important parce que c'est là qu'on peut arriver à déterminer d'abord la place dans la mémoire olfactive et ensuite pouvoir le retrouver chaque fois qu'on en a besoin ou qu'on en a envie. Mm-hmm. Le problème, c'est que, je crois l'avoir déjà dit une fois, c'est que la véritable information est enregistrée dans la mémoire olfactive lorsqu'on peut basculer par-dessus cette référence de mémoire journalière
juste trouver simplement le nom directement. Donc, on n'a plus besoin d'une référence intermédiaire. Mais donc, ce vétiver qui pousse à Java a émigré dans les îles de l'océan Indien et notamment à l'île de la Réunion, dont le vétiver est une des principales cultures avec l'ylang-ylang. D'ailleurs,
quand vous dites ylang-ylang, comment ça se présente là? Je fais juste une petite digression.
L'ylang-ylang est un très grand arbre qui est extrêmement majestueux d'ailleurs et qui a des panicules de fleurs jaunes ressemblant à la couleur et la longueur à des bananes, si vous voulez, mais ils sont plates, bien sûr, ce ne sont pas des fruits. Et cet ylang-ylang a une odeur à la fois très florale, très riche, très puissante et, il faut bien le dire, un peu médicinale. Sous-jacent, on trouve peut-être un petit peu de l'embrocation des athlètes. Mais c'est une fleur qui a une énorme importance dans la parfumerie. Notamment, il est une des clés du 5 de Chanel.
D'accord, mais comme note de milieu ou comme note de...
Non, comme note de tête.
D'accord. On est déjà dans des termes de spécialistes.
Mais on a quitté le vétiver.
Voilà, c'est ça peut-être. On était à La Réunion. Vous venez de parler de cette fleur qui se... Enfin, cet arbre est aussi originaire de La Réunion. On le trouve ailleurs?
On le trouve ailleurs. L'ylang a été à Java, il a été à toutes ces îles-là. Et son origine vient probablement... Pratiquement beaucoup de ces plantes sont originellement des plantes sauvages de ces régions-là.
Moi, je parlais de mon Amérique à moi, puisque nous étions du côté de la Colombie.
Oui, mais justement, je voulais vous faire voyager le vétiver.
Mais justement, on n'a pas terminé le voyage. Là, je suis encore pas...
Dans la recherche de cultures profitables dans certains pays, on a cherché à cultiver le vétiver ailleurs. Et le premier essai qui a été fait, c'est dans les îles de l'archipel des Caraïbes. Et il y a une qualité de vétiver que les Américains, d'ailleurs, parfumeurs américains préfèrent, qui est célèbre, c'est celle de Haïti. Haïti est un très gros producteur de vétiver, mais c'est une culture importée. De même que dans le Congo belge, l'ex-Congo belge, on devrait dire, bien sûr, maintenant le Zaïre, et surtout dans la partie est du Zaïre, on a fait des essais de vétiver, de culture de vétiver, parce qu'il exige un terroir assez particulier. Et le vétiver ensuite a été implanté au Brésil. Donc nous avions Java, l'île de la Réunion, le vétiver dit Bourbon, parce que l'île de la Réunion, en parfumerie, et tout ce qui vient de la Réunion, c'est Bourbon.
C'est encore Bourbon, oui.
Et donc Haïti, le Congo, le Brésil, mais chose curieuse, ce même vétiver se retrouve alors de nouveau à l'état sauvage, mais dans des régions subéquatoriales, comme dans l'Équateur et en Colombie et dans certaines parties du Pérou. C'est la même plante, mais l'odeur est un petit peu différente en raison probablement des phénomènes d'alimentation dans différents terroirs différents.
Quand vous dites vétiver, il y a des parfums qui portent ce nom-là, ou des eaux de toilette pour hommes qui portent ce nom-là, mais... Vous, comme parfumeur, vous savez pertinemment que vous allez utiliser, c'est un simple exemple, mais ce vétiver dans combien de parfums, j'entends, en proportion?
À partir du 1920, et surtout du 5 de Chanel, qui a été un moteur non seulement pour d'autres produits, mais qui reste un élément extraordinaire pour la mise en condition dans les parfums de l'essence de vétiver. À partir de cette époque-là, Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de parfums qui n'en contiennent pas.
À ce point-là, donc on comprend mieux le problème de la production.
Vétiver ou ses dérivés, parce qu'on l'a analysé, trituré, on en a fait des dérivés qui, eux, ont perdu ce côté soupe, le légume, maggi, soupe au cerfeuil, et qui sont devenus beaucoup plus boisés, et qui sont un élément essentiel aux côtés du santal et de certaines qualités de patchouli, sont devenus un élément essentiel. Des notes boisées qui sont le fondement de pratiquement tous les parfums. Ils commencent par des notes fraîches, ils ont une note florale et une note de vétiver, une note de boisée de centrale.
on peut quitter le monde du vétiver. Hein? Parti d'Indonésie, nous avons fait ce détour par Bourbon. Moi, j'ai pris un bateau. J'ai attendu de me laisser porter du côté du Brésil parce que j'attendais de refroisser cette herbe un peu plus sauvage d'un coin perdu de Colombie. Et il y a comme cela des termes. Aujourd'hui, on a tourné autour de l'eau, de tout ce qui était même vinaigré, tout simple, enfin des connotations qui repartent presque aux origines du parfum. Et vous avez évoqué ce 5 de Chanel, et sans le vouloir, en utilisant les termes tout à l'heure, comme le jasmin, la rose, le muguet, vous avez parlé du ylang ylang, on vient de parler du vétiver, on a déjà évoqué un peu le santal. Le cèdre, la vanille, l'ambre, la civette et le musc, tout cela, ça fait partie justement de ce même Chanel 5, si ma mémoire est bonne. C'est-à-dire que c'est ça qui est impressionnant, peut-être pour ceux qui nous écoutent, ça n'est pas une révélation, mais c'est quand même toujours impressionnant. On est habitué maintenant à conjuguer un parfum. Dans la publicité même, on nous cite un peu tout ce qu'il contient. Mais on est toujours impressionné par le nombre d'éléments qui résident dans un parfum.
Mais dans ces mêmes publicités, quand on vous cite ce qu'il contient, que tous les parfums contiennent, et tout particulièrement 5 de Chanel, c'est tout un voyage. On vous parle de patchouli des Seychelles, on vous parle d'ylang bourbon, on vous parle de santal de l'Inde, on vous parle de vétiver, et tout de ça, c'est tout un voyage. La rose de Bulgarie, le jasmin de Grasse, on voyage à l'intérieur d'un parfum.
On pourrait avoir envie, selon l'époque de l'année, de se retrouver, c'est vrai, aux Seychelles. Décrivez-moi, non pas une plage forcément des Seychelles, mais cet arbrisseau dont vous parliez tout à l'heure, le patchouli, comment est-ce qu'il est arrivé en fait à prendre une telle place? Parce que là, j'entends encore des gens de ma famille parler de patchouli, parce que c'est un terme qui est devenu un terme plus général.
Il y a même une chanson.
Mmh, c'est vrai.
Patchouli chinchilla.
Vous allez nous la chanter, là?
Oh, mon Dieu. Ça ferait fuir nos auditeurs. Non, le patchouli, c'est lui-même, comme toutes ces plantes, donc originaires de ces régions subtropicales. Et sa culture remonte déjà à au moins 100 ou 150 ans. On s'était aperçu que la feuille, comme toujours quand on la froisse, parce que c'est comme ça qu'on a découvert ces odeurs, avait une odeur intéressante. Personnellement, je trouve ça un peu, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais ça fait un peu cabinet de notaire, ça fait un peu vieux livre. Et d'ailleurs, c'est une parenthèse que j'ouvre, il était à l'origine d'un parfum qui n'eut jamais de succès, mais qui s'appelait Le secret d'un vieux livre. Justement, il faisait un peu vieux notaire, vous voyez, alors...
C'était le nom du parfum?
Oui, c'était dans l'immédiate après-guerre. Et ça n'a jamais eu de succès, d'ailleurs. C'était une interprétation du thème de patchouli, etc., autour. Comme tout à l'heure, vous avez parlé de vétiver. Et les vétivers que l'on trouve dans le commerce ou des signatures célèbres sont des interprétations du thème de l'odeur. Ça tourne autour. Ça n'a rien à voir, ou presque rien, avec la véritable odeur de vétiver. Mais revenons au patchouli. Parce que le patchouli, donc, s'aimé depuis l'Indonésie, en Inde, et c'est encore à l'heure actuelle dans ces contrées, l'Inde, la Malaisie surtout, la Malaisie principalement, et qu'il est le plus cultivé. Et la qualité top niveau, la meilleure des qualités, vient d'une petite île qui s'appelle Penang, qui est au large de la Malaisie, à l'ouest de la Malaisie. Et je pense que la qualité vient surtout de ce port, parce que c'en est le port exportateur.
Alors, comment se présente l'arbuste?
L'arbuste a environ 1 mètre de haut, 80 cm à 1 mètre de haut, des feuilles larges mais dentelées, enfin pas de grosses, grandes feuilles, mais pour sa taille assez large.
Elles sont caduques, elles sont...
Elles sont persistantes. Mm-hmm. Et l'arbrisseau est coupé et ensuite distillé, on doit dire, à la réalité, entraîné à la vapeur d'eau dans des instruments extrêmement rudimentaires et des très grands longs tuyaux de refroidissement, donc au départ de la marmite et de la vapeur qui entraîne l'odeur, on refroidit le tout, non plus dans ces réfrigérants que l'on connaît dans des distillations
normales,
plus modernes, mais là c'est un long tube qui est en bambou.
Là, c'est pour la feuille, donc, on est bien d'accord. Oui. Tout à l'heure, vous avez juste dit en une phrase que le vétiver, c'était une question de racines. Moi, je me rappelle avoir simplement froissé les feuilles qui ont déjà fortement cette odeur.
Ça a une odeur, oui.
Mais les racines se distillent aussi.
Les racines, la même chose.
Ah, d'accord, donc,
parce que les racines sont beaucoup plus riches en huiles essentielles. Il y a toujours un peu un phénomène de rentabilité.
Parce qu'en finalité, ce sont des huiles.
Et puis, c'est une plante, le vétiver, puisqu'on y revient, c'est une plante qui a un chevelu de racines beaucoup plus important que ce qui est aérien. Et donc, toujours rentabilité, on a une bien meilleure matière première en dessous du sol.
Ce qui ressort, et qu'on vous offre comme parfumeur, pour le patchouli, pour le vétiver, ça ressemble à une huile assez grasse ou...
C'est une huile essentielle qui, comme toutes les huiles essentielles, ont une propriété. C'est ce qui les distingue d'ailleurs des huiles de consommation. C'est qu'elles ont une constitution très spéciale, elles sont au fond... pas faites de corps gras, elles sont faites de corps huileux, au toucher huileux, mais leur propriété principale, c'est de ne jamais, en principe, laisser de traces sur un papier.
Donc elles ne
salissent... Si vous renversez une huile essentielle sur un livre, ne vous en faites pas, laissez-le, il sentira très longtemps, mais vous n'y verrez plus de marque.
Elle doit disparaître.
Elle disparaît, elle est par évaporation, beaucoup plus rapide que les... Puis elle ne marque pas, c'est assez curieux.
On revient à votre...
Si elle marque, c'est qu'il y avait dedans des pigments colorés.
On revient à votre esprit de vin, c'est quelque chose d'un peu magique, le parfum voilà, s'est envolé. Je dois vous dire, Jean Adorn, que depuis que Loncourt est à la fois une rencontre, une discussion, il y a eu beaucoup d'appels téléphoniques, il y a eu surtout beaucoup de demandes par rapport à notre première émission. Nous avons parlé de fleurs, nous avons parlé de roses, nous avons parlé de violettes, un peu de jasmin. Cette fois, eh bien, nous nous arrêterons au vétiver, on a parlé d'autres colonnes, bien sûr, mais enfin, ça c'était vraiment pour arriver à ces extraits, à ces choses assez curieuses, à ces huiles essentielles. On a parlé aussi du patchouli, et j'aimerais que vous me parliez de la vanille, parce qu'au fond, si les gens commencent à nous demander des cassettes de ce que vous êtes en train de nous raconter, de ces voyages parfumés, c'est qu'au fond, on peut en faire des chapitres, et au fond, ce qui est agréable aussi, c'est de se rendre compte que, en prenant complètement au hasard, au début d'une heure, trois éléments parfumés, on peut voyager carrément
mais c'est vrai
dans le monde entier.
Je vous ai dit tout à l'heure en entrant que d'apprendre le métier de parfumeur, c'est déjà un voyage long cours à lui tout seul.
C'est vrai.
Sans compter les difficultés qu'il y a, on essuie les tempêtes et tutti quanti, et les incidents aériens. Ceci dit, revenons à la vanille.
Oui.
La vanille est donc, elle est aussi originaire de l'océan Indien. C'est un orchidée, et un orchidée parasite.
C'est une orchidée, mais elle est...
Doit-on dire un ou une ?
Moi, je dirais une. Mais enfin,
moi, je dis un.
Oui, ben c'est un épiphyte et une orchidée.
Je ne sais pas. Oui, alors vous avez raison.
C'est ça. Mais si vous dites qu'elle est parasite, c'est qu'effectivement elle est épiphyte. Et au fond, quand on voit le... Je peux vous évoquer le souvenir américain de ma vanille, parce qu'après tout, le Mexique est un grand producteur de vanille, a été un grand producteur de vanille.
Ce n'est pas le principal actuel.
Non, ça n'est plus le principal, mais quand on arrive du côté de Papantla, du côté de Veracruz, et que, je ne sais pas, vous venez de terminer une fête avec les hommes volants, ils sont encore en costume, et puis ils vous invitent chez eux, là, dans ce petit village, il y a quelques huttes, et puis il y a la ville elle-même, avec l'église, avec un vieux marché, et là, de nouveau, immédiatement, vous commencez à descendre dans la rue, et ça vous prend au nez, parce que la vanille, c'est quelque chose d'assez puissant. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que c'est une chose délicate, la vanille. Vous voyez ces petites cosses, ces gousses qui sont à peine plus grandes qu'un crayon et qui sont très fines, très noires, très foncées, comme cela. C'est entre le brun très foncé, chocolat noir, et le noir intense. Et puis, vous avez ces petites... On en fait des grosses, en fait. On les met en petits paquets. Ensuite, vous les retrouvez dans un simple garage. Ben, ça ressemble à cela. Mais vous imaginez une tonne ou deux tonnes de vanille sur 20 ou 30 mètres carrés. C'est presque insupportable, et je veux dire par là que la tête est pleine de parfums au point qu'on est obligé de temps à autre de sortir, parce que trop de vanille à la fois, c'est aussi écœurant que quand on en a trop mangé avec une crème quand on était gosse.
Dieu veuille pourtant que vos gousses de vanille continuent à être produites. Vous savez que le vanillé a un problème de fécondation. Et qu'actuellement, les insectes, par suite des traitements des cultures avec des insecticides, on manque d'insectes qui sont capables de polliniser la fleur de vanille, du vanillé, et qu'actuellement, les producteurs de vanille sont obligés de faire cette opération avec une espèce de petite pipette, une sorte de seringue, et de féconder chaque fleur. C'est un travail tel que... penser au coût de la main-d'œuvre qui s'élève de plus en plus, qui sera peut-être supprimée d'ici quelques années, et adieu la vanille.
Vraie vanille.
Mais la vanille, vous savez que si vous attendez un grand moment, elle se couvre d'une petite neige.
Mm-hmm.
Cette petite neige, c'est son corps odorant, qui est en fait un corps chimique qui porte le nom de vanilline, et qui actuellement est produite par synthèse sur une très, très, très grande échelle.
Je vous avoue que
comme tous les chocolats contiennent de la vanille, imaginez si ce n'était que de la vraie. Ça serait délicat. Remarquez, la vanilline est naturelle puisqu'elle vient de la lignine du bois et que les Canadiens sont passés maîtres dans la fabrication des vanillines de synthèse.
Je vous avoue que dans ce même Papantla, je sais effectivement que l'indigène, avec son chapeau blanc et son costume, est obligé de s'occuper de ces fleurs de vanillé, parce qu'il faut dire que c'est une liane. Hein.
C'est une liane, oui.
C'est une liane qui est prise dans un milieu très tropical. On la met en place comme
avec
un peu dans...
Avec de magnifiques fleurs verdâtres.
Comme s'il était dans une serre, enfin on a l'impression que c'est, vous disiez orchidée bien sûr, que c'était quelque chose à cultiver avant que ce soit quelque chose à ramasser, enfin la gousse. Mais ce qui est fabuleux, c'est que de Veracruz à Poza Rica ou à Papantla, sur le bord des routes, vous avez des milliers de personnes qui vous vendent des petits flacons de vanille qui naturellement viennent de votre synthèse canadienne. Et au fond, on les achète quand même pour leur faire plaisir, parce que c'est vrai que même ce liquide parfumé de synthèse est quand même aussi proche que le souvenir que l'on en avait tout à l'heure dans le garage. Dites-moi, la vanille, on en parle, c'est pas pour en mettre dans notre alimentation ni dans le chocolat. Comment, vous l'avez nouant en huile, on l'extrait directement de la gousse ?
C'est pas tout à fait, c'est plus une huile, c'est une extraction par des produits, des solvants chimiques qui nous donnent ce qu'on appelle dans notre métier un résinoïde, c'est-à-dire une matière résineuse qui est utilisé en parfumerie. Et alors, évidemment, ça c'est plus récent, dans les parfumeries chic et choc des années 30, on utilisait surtout la vanille en teinture dans de l'alcool. On faisait macérer à raison de 10% de gousses de vanille dans un litre d'alcool pendant 1, 2 ou 3 ans. Et on avait une merveilleuse chose. Mais c'est des productions qui sont pour le moment absolument... rédhibitoire dans la parfumerie actuelle, compte tenu des consommations qu'on fait du parfum actuellement.
Je vous laisse devant deux huiles essentielles, votre résineux, enfin résiné, ou je ne sais pas.
C'est un peu, oui, ça a la consistance d'une résine.
C'est
quelquefois semi-liquide, enfin, dans le cas de la vanille, ça devient brun noir. Ça a une merveilleuse odeur. On en fait ensuite une décoction alcoolique et on évapore l'alcool. On a un absolu de vanille qui est Ça, c'est vraiment tellement bon, tellement on a l'impression de sentir exactement ce parfum naturel que peut rendre uniquement la gousse de vanille, et encore la gousse de vanille relativement fraîche.
Est-ce que je pourrais maintenant avec vous, en proportion, mélanger un peu de vétiver, de vanille et de patchouli?
Oui. Oui, bon, ça serait sans doute quelque chose de très agréable.
Un peu doux?
Un peu doux, c'est-à-dire qu'il faudrait faire attention dans le dosage de vanille. La vanille, c'est un plus, c'est quelque chose, à part dans certains parfums, il y a certains parfums actuels, surtout les parfums de type orientaux, où la vanille fait office de complément dans la fixation. Mais disons que dès lors que vous en mettez un tout petit peu, ça adoucit terriblement votre harmonie.
Est-ce que les trois ensemble pourraient donner le parfum d'une île de l'océan Indien?
Oui, sûrement. Mais il faudrait leur ajouter encore d'autres choses. L'ylang, par exemple.
Quoi donc?
L'ylang-ylang.
Ah ben oui, on l'a évoqué, on en prend un peu à Bourbon.
En prenant des Comores, cette fois.
Très volontiers.